Radio Scoop Explore, le podcast de la rédaction. L'info locale comme vous ne l'avez jamais entendue.
Des individus ordinaires capables de gestes extraordinaires. Dans ce 20e épisode de Radio Scoop Explore, on s'interroge sur ce qui nous pousse à agir, parfois sans réfléchir. De l'incendie de Grand Montana en Suisse, où des jeunes ont sauvé des vies, à Vénissieux dans le Rhône, où un jeune homme a lui aussi porté secours à ses voisins. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un humain lorsqu'il choisit de se dépasser pour sauver les autres? Acte héroïque quand le courage dépasse la peur. Un podcast signé Clara Simarusti.
Le 14 août 2025, en début d'après-midi, un incendie démarre au cinquième étage de l'immeuble situé au 10 rue Georges Marane à Vénissieux dans le Rhône. La façade du bâtiment porte encore les stigmates. Les deux derniers étages sont noircis par le feu. Corentin Dréger, étudiant de 19 ans au moment des faits, était chez lui, à l'étage du dessus, à ce moment-là.
J'entends un bruit assez sourd. On décide d'aller sur notre palier avec ma mère et par l'appartement de mon voisin du 6, je vois par son balcon des flammes énormes, au moins de 3 mètres, et une fumée noire épaisse. Je comprends directement que, en fait, il y a un incendie qui s'est déclaré dans mon bâtiment.
À ce moment-là, Corentin se met à agir sans réfléchir.
Je décide du coup d'évacuer ma famille, mes proches et les voisins du sixième étage avant de me rendre au cinquième étage. Et après, je décide de toquer à toutes les portes du cinquième, quatrième, troisième, deuxième et premier. Et je fais des rondes, je remonte au moins 6-7 fois, voire 8 fois, en train de courir dans les escaliers entre le premier et le sixième. Pour voir que tout le monde a conscience du danger et que tout le monde est en train de sortir.
Mais qu'est-ce qui t'a poussé à agir? Tu t'es dit c'est un instinct de survie?
Ces personnes, je les connais depuis que je suis tout petit. Ils m'ont vu grandir et j'ai passé des moments incroyables avec eux. Personnellement, je peux pas sauver que ma famille. Même il y en a que je connais pas depuis tout petit, j'ai quand même pas réfléchi, j'y suis allé sans hésitation.
Sans hésitation, ce sang-froid soudain, Corentin nous l'explique.
En fait, c'est comme si mon cerveau il s'est débranché à ce moment-là. Au moment où j'ai su qu'il y avait un danger pour ma vie et pour la vie de mes proches, j'avais un seul but, c'était de prévenir tout le monde. Sur le moment, c'est comme si je ressentais rien. C'est comme si je savais ce que je devais faire, je ressentais rien, que j'avais pas de peur, pas d'impression et pas de doute.
Mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à agir ainsi? Est-ce une impulsion, un instinct ou un trait de personnalité? Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Rémi Ollier.
Je m'appelle Rémi Ollier, donc je suis psychanalyste et psychopraticien et j'ai étudié notamment la psychologie et la psychopathologie psychanalytique.
Et alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau au moment où on décide d'aider ou de sauver quelqu'un?
On n'est pas réellement sur une démarche réfléchie, pensée, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la réaction instinctive. Ça peut s'expliquer d'un point de vue psychosocial comme d'un point de vue scientifique. On va avoir d'un côté des mécanismes qui vont soit favoriser, soit à l'inverse diminuer les chances qu'on réagisse de façon altruiste quand on a déjà été confronté à des situations similaires, qu'on a réagi d'une certaine façon, par exemple de façon altruiste, on aura plus de chances de reproduire le schéma. À l'inverse, il y a l'effet spectateur qui peut complètement endiguer ce mécanisme-là, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de monde qui va être témoin d'une scène, on a tendance à inconsciemment se dire qu'une autre personne va agir, et donc on se repose finalement sur l'idée que quelqu'un d'autre le fera, et on a moins de chances d'agir. D'un point de vue purement pour le coup cognitif ou cérébral, on a déjà le cerveau qui intègre l'info via l'amygdale, donc il va traiter les informations avant que finalement on puisse les identifier consciemment. C'est-à-dire il va traiter en fait nos réactions physiologiques. Il analyse la situation via les ressentis sensoriels et réagit et déclenche le signal d'alarme. Du coup, après, c'est l'hypothalamus qui va prendre le relais, qui va simplement en fait déclencher une sorte de cascade de réactions physiologiques. Donc, on va trouver notamment l'accélération du rythme cardiaque, la redirection du sang dans les muscles. On a aussi la dilatation des pupilles, enfin tout ce qui fait que le corps se positionne en hypervigilance pour se préparer à trois possibilités, donc la fuite, se battre ou se figer, dans l'idée. Finalement, c'est le cortex préfrontal qui est le centre de la gestion de la logique et notamment de la prise de décision qui va réduire son activité pour passer sur une sorte de mode de réaction, qui va impacter la capacité à planifier, à prendre du recul au profit justement de l'action, donc d'aller se mettre justement en danger potentiellement pour aider ou en tout cas pour se sortir d'une situation délicate.
Donc techniquement, Corentin, on va prendre l'exemple concret de Corentin, il a agi par instinct directement. Et on a ce côté psychologique, psychique dans son cerveau. Alors, ça s'est activé à ce moment-là.
À côté de ça, il y a un autre paramètre. Vous disiez tout à l'heure qu'il connaissait justement ses voisins. C'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pas mal de variables qui rentrent en ligne de compte. Mais en l'occurrence, il est probable que ça ait accentué justement, augmenté les chances finalement qu'il agisse. Et qu'il aille aider finalement ses voisins, le fait qu'il ait un lien avec eux, que ce soit des personnes qu'il apprécie.
Il a mentionné aussi qu'il y avait l'absence de la notion de temps. Je m'explique. C'est-à-dire qu'entre le moment où il a réalisé que son immeuble était en feu et qu'il a tapé à toutes les portes, il a descendu les gens, puis il est remonté, tapé aux autres portes, puis etc. Enfin, il a fait tous les étages comme ça. Et puis en fait, il y avait donc du coup ses voisins qui étaient en bas, qui avaient appelé les pompiers, etc. Et lui, il m'a dit, mais j'avais l'impression que en fait le temps s'était arrêté et que ça avait duré 2 minutes 30, alors que apparemment ça a duré à peu près 20 minutes.
Ça s'explique notamment par le fait que justement il y a eu toute cette cascade de réactions physiologiques et que justement le cerveau se soit mis en mode survie. Donc en fait la perception de son environnement est différente de ce qu'il pourrait percevoir en temps normal. Tout à l'heure je vous parlais justement des réactions au niveau de la dilatation des pupilles, ce genre de choses, tous ces éléments en fait qui mettent le corps finalement en capacité d'agir, ça prend le pas. Et le cerveau va en fait être moins sollicité à certains endroits pour justement favoriser ce mode survie. Et donc la perception de l'environnement, la capacité à prendre du recul, à rationaliser, toutes ces choses-là, elles vont être ralenties pour justement pouvoir agir. Et c'est ce qui peut expliquer aussi le fait qu'il n'ait pas perçu le temps de la même façon qu'une personne qui serait par exemple au travail.
Est-ce qu'on a des profils de personnes qui sont plus disposées à sauver la vie de quelqu'un qui est en train de se noyer ou quelqu'un qui a le feu dans son appartement?
D'un côté, oui, et de l'autre côté, non. Dans la mesure où techniquement, on est tous capables d'adopter ce type de réaction. Dans le cas où un être humain a déjà été confronté, comme je disais tout à l'heure, à une situation de danger imminente, il a techniquement plus de chances de pouvoir reproduire ce modèle réactionnel, contrairement à une personne qui n'aurait pas vécu justement de situation similaire. Après, ça n'empêche pas que une personne n'ayant pas vécu de situation de danger puisse se comporter de façon héroïque. Que la personne soit justement introvertie ou extravertie, ça va pas réellement avoir d'impact sur la manière dont il va réagir. C'est pas forcément les traits de personnalité qui vont favoriser ou non, justement, ce genre de réaction.
On peut dire quand même, Rémi, aujourd'hui, que c'est fascinant à quel point on peut voir que l'humain peut se dépasser pour protéger les autres.
Tout à fait. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on expérimente pour la plupart jamais, finalement. En tout cas, pas à ce degré-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on parfois ne suppose même pas possible. Et dans le cas de ce jeune homme, effectivement, c'est quelque chose qu'il n'avait probablement pas prévu, qu'il ne connaissait peut-être même pas de lui-même. Et qu'il a découvert ce jour-là. Donc effectivement, c'est enfoui et c'est quelque chose qui est assez fascinant à observer.
Le courage de Corentin Drégé rappelle que parfois, l'héroïsme se cache dans le quotidien. Un geste simple mais risqué, guidé par l'instinct, l'empathie et le lien humain. Mais alors, qu'en est-il de l'après? Qu'ont-ils fait après cet incendie sans blessé? Corentin nous l'explique.
Alors premièrement, on s'est fait un bon repas avec mes voisins les plus proches parce qu'on décidait que ça ne servait plus à rien de broyer du noir. C'est fait et on peut pas revenir sur le passé, mais on peut que avancer.
Qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? Quel est ton mot de la fin?
Le mot serait solidarité parce que en ce moment, on a plus que besoin de se soutenir les uns les autres, d'être unis les uns les autres. Donc le mot serait solidarité. Je pense qu'il est bien choisi pour le moment.
Depuis cette histoire, Corentin a été reçu à Paris et a été récompensé de la médaille de l'Assemblée nationale.
Radioscoop Explore, le podcast de la rédaction, à retrouver sur l'appli Radioscoop, radioscoop.com et nos plateformes.